Bonjour.
Si votre profession aujourd'hui, elle est très diversifiée, le principal motif de consultation, ça reste la volonté de perdre du poids?
En tout cas, en consultation ambulatoire, donc les personnes qui viennent dans un cabinet de consultation diététique viennent bien souvent parce que elles désirent perdre du poids ou bien du moins elles ne sont pas satisfaites de leur rapport à l'alimentation et de leur poids, effectivement.
Et la prise en charge des personnes qui ont des problèmes de surpoids, c'est une prise en charge qui a énormément évolué ces dernières années.
Oui, vous avez raison, tout à fait. Effectivement, il y a eu une grande évolution de la prise en charge et puis du coup, le métier diététicien, diététicienne a effectivement beaucoup évolué dans cette manière d'accompagner des personnes qui viennent consulter pour une problématique de poids. On est passé vraiment d'une prise en charge très, je dirais, très ciblée alimentation sur une prise en charge beaucoup plus large autour à la fois de l'alimentation, mais principalement du comportement alimentaire.
Donc le sujet du poids a quand même beaucoup évolué. Aujourd'hui, on parle plutôt de poids idéal, de poids de rêve ou idéalisé, de poids santé. Mais lorsque l'on discute avec quelqu'un de votre profession, jamais, ou en tout cas plus jamais, on nous dit, ben voilà, il vous faut perdre 25 kilos en quelques mois. Il y a une autre approche.
Effectivement. Ça, c'est vrai que le poids idéal ou le poids rêvé, c'est souvent la demande des personnes qui viennent consulter. Par contre, c'est difficile de dire quel poids on doit avoir et quel poids on va avoir. On n'a pas forcément un impact clair sur son poids. Le poids, il est vraiment le résultat à la fois d'un bagage héréditaire et génétique qu'on a reçu, de ce qui s'est passé au cours de notre vie dans notre alimentation et dans notre poids. Est-ce que notre poids est resté stable ou est-ce qu'il a beaucoup bougé? Ça va aussi influencer le poids. Et puis, de son comportement alimentaire. Et c'est pour ça qu'on travaille sur le comportement alimentaire.
Ça veut dire que ce fameux IMC, hein, l'indice de masse corporelle, ça change aussi. Faut plus regarder ça avec des œillères en disant « voilà le poids que je dois réellement avoir ».
Disons, c'est une indication plutôt de santé. Mais vous pouvez avoir des personnes qui ont peut-être un indice de masse corporelle un peu élevé par rapport à une norme, mais qui seront tout à fait en bonne santé quand même parce qu'ils ont une activité sportive, parce qu'ils se maintiennent en bonne santé et qu'ils ont un poids stable. Donc ce sera préférable que quelqu'un qui est tout le temps en train de prendre du poids, perdre du poids, prendre du poids, perdre du poids, et qui au bout du compte risque en fait d'avoir de la peine à stabiliser sur le long terme à un poids qui est souhaitable. Donc je pense que c'est plutôt vraiment au cas par cas. L'IMC, c'est une indication santé, mais je ne pense pas qu'il faut l'utiliser comme norme.
Et puis, contrairement à ce qu'on peut croire, et puis après plusieurs, j'imagine, années d'études, être en surpoids, c'est pas forcément synonyme de malbouffe.
Absolument. Absolument. Puis ça, je pense que c'est vraiment malheureusement une idée reçue qui colle à la peau de beaucoup de personnes. Il y a des personnes qui mangent tout à fait sainement et qui n'ont pas de problème de poids. Il y a des personnes qui mangent tout à fait sainement et qui ont des problèmes de poids. Et il y a des personnes qui ne mangent pas sainement et qui n'ont pas de problème de poids. On en connaît tous.
Oui,
et il y
a des personnes en général.
Voilà, c'est toujours particulier. Il y a des personnes qui n'ont pas de problème de poids, qui ne mangent pas sainement et qui ont des problèmes de poids. Tous les scénarios sont possibles. Ce qu'il faut retenir peut-être, c'est que c'est pas la qualité de ce que l'on mange qui va, ou bien l'équilibre de ce que l'on mange qui va conditionner le poids. Vraiment, le poids, il est conditionné en lien avec notre capacité de manger les bonnes quantités pour nous. Et ça, c'est vraiment très individuel.
Alors, vous le disiez tout à l'heure, aujourd'hui, le travail des diététiciens et diététiciennes a passablement évolué. Il ne se résume plus à donner des indications alimentaires, mais il faut vraiment se pencher sur la personne dans sa globalité, comprendre notamment les émotions qui, parfois, peuvent faire déraper l'alimentation.
Alors, c'est vrai que le terme de déraper, il est intéressant parce que une émotion, c'est normal qu'elle fasse manger. C'est normal qu'on ait envie de manger face à certains aliments. Peut-être une émotion alimentaire, on a envie de manger un aliment. Mais aussi, il y a des émotions qui peuvent nous faire manger. Ce qui pose problème, c'est quand l'émotion fait toujours manger. Ça veut dire qu'il n'y a pas d'autres alternatives que manger à une émotion. Ou alors qu'en fait, il faut très peu d'émotions pour manger. Ça veut dire que notre tolérance, elle est très, très basse. Et puis, en fait, ce qui est là est important, c'est de travailler sur ce comportement alimentaire pour justement réouvrir le comportement, pouvoir avoir des alternatives à manger, qui n'est pas que manger, mais la nourriture peut faire partie de ce qui peut calmer une émotion, mais qu'il y en ait d'autres options. Et puis, peut-être qu'on ait une tolérance un peu plus grande, qu'il ne suffit pas d'une toute petite chose pour nous faire manger, d'une toute petite émotion pour nous faire manger. Donc ça, c'est vraiment un travail de refaire la paix avec son alimentation.
Refaire la paix avec son alimentation, c'est justement ce que je voulais poser comme question, parce qu'on parle de personnes qui seraient en surpoids, mais votre travail, c'est aussi d'apprendre à manger convenablement, les quantités dont on a besoin, mais c'est aussi peut-être pour certaines personnes leur faire apprendre à aimer manger.
Quand vous dites aimer manger, ça veut dire avoir du plaisir à manger ?
Avoir du plaisir pour les personnes qui seraient par exemple anorexiques.
Alors oui, quand on est dans des problématiques de troubles du comportement alimentaire comme l'anorexie, alors on est vraiment dans un autre rapport à la nourriture, c'est-à-dire que la nourriture, elle va être utilisée pour se contrôler, pour avoir comme ça une emprise sur sa vie, et puis la nourriture est en fait un des symptômes. Mais je dirais qu'on ne va pas pouvoir travailler en premier lieu sur l'alimentation, il va d'abord en fait falloir travailler dans le cadre en général d'un accompagnement médical et psychothérapeutique sur quelle est la problématique qui fait que cette personne tout à coup elle veut plus avancer, elle veut plus manger, elle veut en fait transformer sa vie ou avoir un pouvoir sur sa vie et ne plus en fait manger. Donc à ce moment-là, la nourriture c'est un symptôme, mais on va pas pouvoir travailler d'abord sur ce symptôme, ce sera que dans un deuxième temps, quand la personne sera de nouveau apaisée et pourra de nouveau avoir envie d'être bien dans son poids, avoir un poids normal, en fait, qui est en lien avec son histoire et sa génétique, et puis qu'elle sera de nouveau d'accord de manger, qu'on pourra refaire un travail comportemental pour rétablir un comportement alimentaire normal, ce que nous, on appellera régulé, en fait.
Florence Autier, je rappelle que vous êtes diététicienne à Neuchâtel. Si on veut perdre du poids, il faut commencer par comprendre nos émotions et comment nos émotions influencent notre façon de manger. C'est le premier pas.
En tout cas, comprendre comment notre façon de manger se passe, ça veut dire qu'est-ce qui régule nos apports alimentaires. Est-ce que c'est effectivement plutôt nos émotions, c'est-à-dire pour certaines personnes le besoin de contrôler ce qu'elles mangent, mais après avec le risque de ne plus pouvoir se contrôler et puis de perdre le contrôle et avoir des émotions de regret ou de culpabilité suite à cela, ou alors qui serait souhaitable, en fait, être piloté non pas par ses émotions, mais par ce que nous, on appellera les sensations alimentaires, c'est-à-dire, en fait, la faim, le rassasiement, vraiment d'être en contact avec les signaux corporels que nous envoie notre corps, ce qui est, en fait, la physiologie. Physiologiquement, un bébé, quand il naît, il peut nous montrer quand il a faim, il peut aussi nous montrer quand il n'a plus faim. Et ce mécanisme magnifique, en fait, il devrait rester avec nous. Et malheureusement, dans certains cas, on s'en éloigne quand on commence, en fait, à piloter nos apports alimentaires, non plus avec notre corps, mais en fait avec notre tête.
Est-ce que l'une des recettes, si j'ose dire, c'est de prendre le temps de manger, mais aussi parfois prendre le temps de faire à manger, parce que c'est là aussi que commence le rapport à la nourriture ?
Alors ça, c'est magnifique si on peut le faire. Effectivement, en tout cas, prendre le temps de manger, je pense que ça, c'est vraiment quelque chose, un objectif qui est vraiment souhaitable. Et puis, c'est magnifique, les personnes qui prennent le temps de manger. Et puis, pour celles qui ne le prennent pas ou bien qui mangent en faisant d'autres activités, on peut que les encourager à garder ce temps de récupération, de pause, parce qu'aussi, on remarque que quand on mange, vraiment, quand on s'arrête pour manger, on recharge mieux ses batteries, on est plus apaisé et on peut repartir pour la suite de la journée. Quand on mange en faisant autre chose, effectivement, on a déjà moins conscience d'avoir mangé, on est moins en contact en fait avec l'effet des aliments sur notre corps, et puis on est moins rechargé. Et puis bien sûr, si on peut faire à manger, c'est magnifique.
Il y a besoin de retrouver ces sensations, peut-être aussi de lâcher prise, y compris quand nos sensations, nos envies nous orientent plus vers le croissant que vers le pain complet. Si on mange un croissant en ayant faim, on ne va pas prendre de poids, alors que si on mange du pain complet ou l'aliment le plus sain du monde en n'ayant pas faim, on va prendre du poids.
Oui, c'est intéressant, tout à fait. C'est tout à fait ça. C'est qu'en fait, c'est pas tellement l'aliment, mais c'est est-ce que cet aliment que l'on consomme, il est mangé au moment où on a faim, et puis est-ce qu'on arrive à ressentir dans le corps comment ça fait quand on mange un croissant, quand on mange une tranche de pain ou une salade, ou un fruit ou du chocolat, ça fait pas la même chose dans le corps. C'est vraiment de pouvoir effectivement ressentir ça. Et puis, c'est tout à fait normal aussi de parfois manger quand on n'a pas faim. On a tous des moments où on mange quand on n'a pas faim ou des moments où on mangerait un peu trop. Mais la différence, c'est que quelqu'un de régulier va en fait ressentir ça. Et du coup, ça va influencer sur la suite. Peut-être si on a mangé davantage, on aura moins vite faim. Ou si on a mangé un moment où on avait moins faim, ça va repousser dans le temps le moment où on a de nouveau faim. Et les personnes qui sont moins pilotées par leurs sensations alimentaires risqueront par contre de avoir, même quand elles ont mangé trop, elles voudront remanger au même repas à une heure fixe parce que ça les rassure. Donc c'est pouvoir introduire cette souplesse tout en sachant que le pilotage et la régulation est faite par les sensations.
Et vous avez du coup des techniques, des trucs un petit peu pour que justement on puisse apprendre à s'écouter un peu plus, surtout qu'on est dans une époque où tout est régulé, on a la pause à heure fixe, on arrive le soir, on a très peu de temps pour soi-même. Il y a des petits trucs à faire. Alors oui, s'écouter, mais ça peut des fois être compliqué.
Absolument, absolument. Effectivement, s'écouter, c'est des fois un terme un petit peu large comme ça et on comprend pas vraiment toujours ce que ça veut dire. Il y a vraiment l'idée d'essayer de s'arrêter pour manger, c'est-à-dire de vraiment se poser à table, assis, sans faire une autre activité en même temps, vraiment pour pouvoir être en contact avec ce qu'on mange, et peut-être aussi essayer d'avoir du plaisir à ce que l'on mange. Et puis s'écouter voudrait dire aussi, en fait, partir à la recherche d'informations que nous envoie notre corps autour de est-ce que j'ai faim, est-ce que j'ai envie de manger. Donc c'est des questions qu'on peut se poser régulièrement, avant le repas, pendant le repas, après le repas, pour pouvoir en fait moduler les apports en fonction à la fois de sa faim et à la fois de son envie. Notre envie, elle est aussi indicative d'une diversité alimentaire et puis en fait des aliments qui seront aussi intéressants pour un moment qu'on se sente rassasié. Ne plus avoir envie de manger, pouvoir terminer un repas, c'est ne plus avoir faim, mais aussi ne plus avoir envie de manger.
Ma Florence Sautier, on vous remercie beaucoup pour tous ces précieux conseils. On remettra évidemment ces informations tout à l'heure sur la page de Format 3. On vous souhaite une belle journée internationale diététicienne.
Merci de m'avoir reçue.